Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix. Bonsoir et bienvenue à tous. En titre présidentiel 2025, la commission électorale indépendante CEI a échangé vendredi dernier avec les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire afin de solliciter leur implication pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale. Le mot d'ordre de grève annoncé de syndicats de l'éducation nationale du 15 au 17 octobre est maintenu en dépit d'une rencontre initiée par le ministère de l'Éducation et boycottée hier par l'intersyndicale. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall est candidat aux législatives de novembre prochain, tout comme le parti au pouvoir Le PASTEF qu'il avait battu lors de la présidentielle d'avril dernier. Pour bien comprendre les enjeux de ces législatives, nous serons avec le docteur Sadio Adama, analyste politique sénégalais. Et en toute fin d'édition, nous aurons un dossier d'actualité proposé par notre correspondant dans l'IFU sur le recensement biométrique des fonctionnaires dans cette région qui se déroule sans incident, selon François Kra. La commission électorale indépendante CEI a initié le vendredi dernier à Yamoussoukro une rencontre d'information et d'échange avec les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre était de solliciter l'implication des rois et chefs traditionnels dans la sensibilisation des populations en vue de la réussite de l'opération de révision de la liste électorale prévue démarrer le 19 octobre prochain. Témoin pour Radio de la Paix, Emiliao.
En l'absence du président de l'institution, c'est le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante CEI qui a conduit les échanges. Alain Dogou a expliqué à ses interlocuteurs l'importance et le mode opératoire de l'opération de révision de la liste électorale et sollicité leur implication dans la sensibilisation des populations cibles.
Il faut que partout où vous êtes, vous puissiez nous servir des relais, de telle sorte que les 4 500 000 Ivoiriens que nous cherchons, nous puissions au moins avoir la moitié. Notre objectif est de produire une liste électorale crédible.
La liste électorale provisoire sera publiée début mars 2025, a précisé également l'émissaire de la CEI.
Nous comptons publier la liste électorale provisoire en mars 2025 et rapidement publier la liste électorale définitive vers juin 2025 pour permettre à tous les candidats aux élections présidentielles d'aller chercher les parrains.
Sa Majesté Amontanoué Désiré, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et son directoire ont exprimé leur volonté d'accompagner à la sensibilisation.
Nous disons déjà merci pour cette campagne de sensibilisation.
Chef Simon Mboba, on avait des doutes au départ, on a posé des questions. Il a eu des réponses qui ont satisfait tout le monde. On ne peut que l'accompagner.
Nous avons été bien renseignés et nous sommes aussi en mission pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit en paix.
Rappelons que l'opération de révision de la liste électorale débute le samedi 19 octobre prochain pour s'achever le 10 novembre 2024. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et c'est connu de tous, 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire et en prélude à ce nouveau cycle électoral, le ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers son observatoire de solidarité et de cohésion sociale a procédé ce lundi 14 octobre à Abidjan-Cocody au lancement officiel d'une campagne nationale de sensibilisation pour des élections apaisées en 2025. Jean-Claude Mabéa y était pour le compte de Radio de la Paix, suivant donc son compte-rendu.
Le directeur de cabinet de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Joël Yves Kouadio, a situé les enjeux de cette campagne nationale de sensibilisation.
Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles de 2025 et ces échéances constituent parfois des moments de tension. Il était donc important pour le ministère en charge de la Cohésion nationale de créer les conditions d'un processus électoral apaisé, conformément à ses missions.
Sur le déroulement de ce programme. Voici les précisions du directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, Koulibaly Thiozon Ibrahima.
Il y aura des campagnes de proximité publique hors médias et il y aura à côté des campagnes sur les radios de proximité avec la diffusion de prêts à diffuser dans différentes langues nationales. Il s'agira aussi de mener cette campagne sur les réseaux sociaux avec des influenceurs. La direction de la communication du ministère également lancera une série de messages aux populations, aux acteurs politiques.
Après réception de son cahier de charges, le directeur régional de la solidarité du Cavali, Kouakou Serge, a pris cet engagement.
Nous allons approcher les différentes radios de proximité, engager des campagnes de sensibilisation via ces différentes radios. Nous allons aussi faire des sensibilisations de masse sur la révision de la liste électorale. Nous allons aussi user des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre notre objectif.
À noter que la campagne va se dérouler du 14 octobre au 30 novembre 2024 dans les 31 régions et les deux districts autonomes du pays.
Et au terme de la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation pour des élections apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire, le président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques, Dr Blaise Pierre Norlander, ainsi que le directeur résident du NDIA, le National Democratic Institute, Traoré François, se sont prononcés sur cette initiative.
Je crois que c'est une très bonne résolution parce que c'est une option qui donnera plus d'informations et de sensibilisation à nos compatriotes qui sont souvent dans l'ignorance. Et on leur apprendra à connaître les aboutissants de la paix sans toutefois qu'on ait recours à la force. Parce que la paix peut se faire dans des conditions simples, mais en respectant celui qui est en face de vous et aussi faire du civisme. Il faut respecter ce qui est comme loi, instruction qui concerne les élections. Donc c'est un bon engagement. Une bonne chose de vouloir vraiment prendre le temps d'aider nos compatriotes à comprendre et à connaître comment voter, comment aller aux élections pour éviter les violences électorales qui sont souvent des choses d'ignorance. Parce que quand des gens disent que mais c'est la CEI qui fait gagner les élections, ils disent c'est faux. La CEI n'est que le gestionnaire et il n'applique que les lois qui sont votées à l'Assemblée.
Vous savez que la Côte d'Ivoire se prépare pour une élection présidentielle en 2025 dont le processus commence déjà avec l'enrôlement des électeurs qui est prévu après le 19 octobre. Nous vivons une ère où il y a la télécommunication qui a pris de l'ampleur avec tout ce qu'il y a comme rumeurs, désinformations, malinformations et même les discours de haine qui sont distillés à travers tous ces réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Et de façon tendancieuse, j'allais dire de façon malicieuse, de sorte à ce que les populations sont souvent opposées les unes contre les autres. Et donc ce genre d'activité permet d'apporter la vraie information aux populations, mais surtout de les sensibiliser à des élections. Une élection, c'est pas la guerre, c'est un jeu.
Les propos de Traoré François, directeur résident du NDIA, le National Democratic Institute, et avant lui, Dr Blaise Pierre Norlander, président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques, ont été recueillis par Jean-Claude Mabéa. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation annonce être en grève dans tout le pays à partir de demain mardi 15 octobre et ce jusqu'au 17 du même mois. Et cela après avoir refusé de participer à une rencontre hier dimanche avec la ministre de l'Éducation nationale. Écoutons à ce propos le secrétaire général du CINESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, Ekoun Kwasi.
Le CINESI est dans un groupe de 7 tiers appelé intersyndical du MUNA. Nous avons échangé sur le sujet et nous avons décidé ensemble, les 9 7 tiers, de ne pas se rendre à cette rencontre, tout simplement parce que notre ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeur Maria Toukouné, a dit qu'elle est incompétente pour régler notre revendication concernant les primes. Pour l'heure, notre seule et unique revendication qui tienne, ce sont les primes. Si elle estime qu'elle est incompétente, nous avons jugé, alors inutile d'aller à une rencontre sur un sujet où elle a estimé depuis longtemps son incompétence à régler le problème.
Alors, la rencontre à laquelle Madame la ministre vous a convié visait quoi?
La rencontre visait le préavis de grève que nous avons déposé. Or, le préavis de grève que nous avons déposé, le premier point, c'est les primes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est les primes. C'est pourquoi nous sommes allés avec Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Elle aussi, à son niveau, nous avons été reçus, mais on n'a pas été satisfait des conclusions que nous avons obtenues. Et nous avons décidé de poursuivre notre mode d'ordre d'arrêt de travail qui est prévu les mardis, mercredis, jeudi, 15 15, 16 et 17 octobre sur toute l'étendue du territoire.
Et Koun Kouassi, à l'instant, il a été joint par Francis Cassie et il est le secrétaire général du CNESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Et on parle d'une autre grève, cette fois au niveau de la fonction publique, certains syndicats en tout cas. Et donc, la trêve sociale signée en 2022 entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales serait-elle rompue? Non, répond Théodore Zadignania, président de la Confédération Plateforme Nationale des Organisations professionnelle des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, l'une des centrales signataires de cette trêve sociale, et il s'en explique.
La trêve sociale est un paradigme nouveau qui est une construction jour après jour. Il peut arriver qu'il y ait quelques crispations, des incompréhensions même, que des camarades déposent des préavis. Cela ne met pas fin à la trêve sociale qui nous permet, avec le gouvernement, de travailler dans la sérénité. Nous comprenons que des préoccupations sectorielles n'aient pas été bien réglées au niveau des secteurs d'activité puissent monter à la surface et donnent le sentiment que la trêve sociale est brisée, ce qui n'est pas le cas.
Lors de la signature de cette trêve, l'idée c'était d'apaiser donc le niveau social pour que les travailleurs puissent contribuer au développement du pays sans perturbation, alors qu'on constate ces perturbations avec ces annonces de grève.
Mais la réalité, c'est que depuis 2022 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de perturbation. Ça veut dire que des efforts sont faits au niveau des organisations syndicales, au niveau du gouvernement, pour que nous maintenions cette architecture de paix. Vous avez pu suivre dernièrement, au niveau de la primature, la mise en place du comité consultatif de la fonction publique, dont la mission est de gérer les questions à caractère financier qui peuvent advenir pendant la période de trêve. Donc, je pense que le dispositif est en train de se mettre en place et nous sommes convaincus que petit à petit, nous aurons donc la paix telle que nous la souhaitons. Mais il nous faut faire face à la situation actuelle par la négociation, par l'apaisement, et c'est ce que nous faisons, nous, en tant que centrale signataire.
Théodore Zadignania, il était en ligne avec Jean-Claude Comé et il est le président de la Confédération Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Secteurs Publics et Privés de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, moins de 8 mois après avoir quitté la présidence du pays, Macky Sall revient sur la scène politique pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. L'ex-chef de l'État devra faire face notamment au parti au pouvoir, le PASTEF, dont la liste dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko a pour ambition d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale. Pour bien comprendre les enjeux de ces législatives au Sénégal, nous avons interrogé le docteur Sadio Adama, analyste politique. Il explique les raisons de ce retour et il est interrogé par Mata Touré.
Pour moi, le retour du président Macky Sall s'explique par peut-être 4 facteurs. D'abord, il y a cette volonté d'abattre les mauvaises politiques donc de son camp. Celui qui était son candidat était en train de lui prendre les responsables de son parti politique. Le second facteur, c'est qu'il pourra être majoritaire à l'Assemblée nationale avec cette intercoalition. Et s'il est majoritaire, donc il pourrait être le président de l'Assemblée nationale et par conséquent la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. Et dans ce cas-là, il pouvait même lui-même faire nommer le Premier ministre et le président sera obligé de composer avec lui s'il veut diriger tranquillement le pays. Troisièmement, il y a le statut du chef de l'opposition. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi qui détermine qui est le chef de l'opposition. Si toutefois on dit que c'est le parti qui arrive deuxième à l'Assemblée nationale, donc il va de soi que Macky Sall sera le chef de l'opposition. Il y a un cadre institutionnel, il y a un cadre juridique, il y a un budget financier qui est accordé au chef de l'opposition. Et le quatrième pour moi, un enjeu majeur, c'est les possibles poursuites qui sont envisagées contre lui et aussi ses ministres. Si Macky Sall parvient à empêcher au parti au pouvoir d'avoir une majorité, ce serait synonyme d'empêcher toute possible poursuite contre lui et aussi contre tous ses ministres.
À l'instant, vous écoutiez le docteur Sadio Adama, analyste politique. Il était avec Mata Touré et revenait un peu sur la candidature de Macky Sall, ex-président sénégalais, pour les législatives du 17 novembre prochain. Et puis, toujours au plan international, le prix Nobel de l'économie de l'année 2024, dernière de la série des prix Nobel, a été attribué et il vient d'être décerné ce lundi à un trio d'enseignants-chercheurs américains. Et cela pour leurs travaux sur les différences de prospérité entre les nations. Jean-Claude Comé nous en parle.
Le prix Nobel d'économie de l'année 2024 vient d'être décerné au trio de chercheurs que sont Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson, tous enseignants aux États-Unis. Daron Acemoglu, 57 ans, américano-turc, est spécialiste d'économie politique, de la croissance et également du rôle des institutions dans les politiques de développement. Il enseigne au Massachusetts Institute of Technology, le MIT à Boston, université où travaille également Simon Johnson, 61 ans, son co-lauréat. James Robinson, 64 ans, le troisième lauréat, quant à lui, est professeur à l'Université de Chicago. En 2012, il a co-écrit avec Daron Acemoglu l'ouvrage « Prospérité, puissance et pauvreté ». Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres? En d'autres termes, ce trio tente d'expliquer en quoi la démocratie peut créer la croissance par rapport au régime autocratique. C'est justement les suggestions de cet ouvrage qui leur valent aujourd'hui cette récompense du prix Nobel d'économie. Seul à ne pas avoir été prévu dans le testament d'Alfred Nobel, le prix d'économie a été créé par la Banque centrale suédoise à la mémoire de l'inventeur et vient s'ajouter aux 5 traditionnelles récompenses que sont les Nobel de médecine, de physique, de chimie, de littérature et de paix. Les lauréats reçoivent un chèque de 11 millions de couronnes, ce qui équivaut à 920 000 euros, soit plus de 600 millions de francs CFA à partager en cas de multiples gagnants.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour toutes ces précisions. On prend à présent la direction de la région de Lifou où l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État qui a débuté dans la région le 23 septembre dernier se déroule sans incident. Cependant, pour une mise en œuvre efficiente, les personnes concernées par cette opération s'indignent de l'insuffisance et de l'éloignement des centres d'enrôlement. Plus de détails dans ce dossier d'actualité de notre correspondant sur place, François Kra.
Les personnes concernées par cette opération se rendent, selon leur programmation, soit à la préfecture ou à la direction régionale de la fonction publique. Deux sites d'enrôlement situés au chef-lieu des régions d'Aokro. C'est un parcours du combattant pour les non-résidents.
Estelle, épouse Ngetia, je suis sage-femme dans la localité de Bénian. Pourquoi qui est située à 72 km de Daokro. Hein. C'est-à-dire pour nous, comme ça, tu te réveilles à 3h du matin pour espérer avoir le véhicule à 5h30. Et quand tu arrives à Tricro, s'il est déjà 7h40, tu risques de rater le seul départ.
Bosser à Ouma, Luther. Les œufs forêts et trop courts. Ah, venir à Daokro, c'est pas facile.
C'est pourquoi Aboli Abib Kone, enseignant à Nzekrenzesu, plaide pour la décentralisation des sites afin de leur permettre de se faire enregistrer facilement.
Aujourd'hui, je me suis réveillé très tôt pour pouvoir venir le faire. Heureusement, ce matin, il n'y a pas encore beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait plusieurs sites.
Thierry Ngetia, infirmier, propose une autre solution.
Si on pouvait donner la possibilité de s'enregistrer dans un cybercafé, vu que l'Internet, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est accessible à tout le monde. Même étant chez soi, ce serait l'idéal.
Pour Douceige Pacom, chef du service communication de la direction régionale de la fonction publique de l'IFU, ce projet d'enrôlement a une particularité.
Chaque individu a ses propres empreintes digitales. Même de vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Dans ce cas de figure-là, vous voyez que la fraude ne peut plus prospérer.
Le directeur régional de la fonction publique de l'IFU, Dominique Ouandjé, apporte d'autres précisions.
Deux sites pour toute la région, c'est le dispositif qui a été mis en place par la centrale. Sauf qu'on n'est pas obligé de venir forcément au chef-lieu de région. On peut se rendre partout où on peut se faire enrôler. Aujourd'hui, l'opération ouverte à tous les fonctionnaires, parce qu'avant l'opération, c'était un certain nombre de matériaux qui avaient été pris en compte. Ça, c'est un message que je lance. On ne peut pas être payé en Côte d'Ivoire et puis vivre au Canada. Un fonctionnaire qui est absent son poste, qui est payé, c'est une perte pour l'État de Côte d'Ivoire.
Tia Esther est agent opératrice des saisies.
Quelques soucis avec les usagers. Voilà, ils n'ont pas toutes les informations. Donc, quand c'est comme ça, il y a des petits accrochages.
Le préfet de l'IFO, Dicky Raymond Claude, prévient que tous ceux qui ne se feront pas enrôler seront simplement sortis des fichiers de la fonction publique.
Pour chaque fonctionnaire, c'est de ne pas être sanctionné parce que si vous ne vous présentez pas, vous êtes considéré comme un abandon de poste.
Débutée le 23 septembre dernier, la dite opération prendra fin le 25 octobre 2024. François Kra, Daokro, Radio de la Paix.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Tout de suite, le rappel des titres. Présidentielle 2025, la commission électorale indépendante CEI a échangé vendredi dernier avec les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire afin de solliciter leur implication pour la réussite de l'opération de révision de la liste électorale. Le mot d'ordre de grève annoncé des syndicats de l'éducation nationale du 15 au 17 octobre est maintenu en dépit d'une rencontre initiée par le ministère de l'Éducation et boycottée hier par l'intersyndicale. Tout de suite, votre magazine Economia avec Jean-Claude Decomé. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix.